Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de cette édition d'information, lancement ce mardi au camp Tchatchi de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Initiateur du projet, le président Félix Tshisekedi Tshilombo affirme que le choix de la ville de Kinshasa est motivé par le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile. Au Sud Kivu, après Kamanyola et Katogota, le choléra est signalé à Sangé et à Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi. Le médecin directeur de l'hôpital de Sangé révèle qu'un malade qui avait été conduit en urgence dans un état critique est décédé. Notre invité, c'est le médecin directeur du centre de santé de Lukando, cité située à 60 km de Kindu-Maniema. Docteur Gervais Djelaluka affirme que ce centre de santé manque de médicaments essentiels. Conséquence, les malades meurent en route faute d'ambulance. Madame, Messieurs, bonsoir. Santé pour commencer votre journal. Le président de la République a lancé hier au camp militaire Tchatchi de Kinshasa la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans le cadre de la couverture de la santé universelle. Félix Tshisekedi Tshilombo affirme que le choix de la capitale est justifié par le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile. Tenez, 480 décès sont signalés sur 100 000 naissances. Il assure que ce programme va s'étendre progressivement aux autres provinces du pays. Explication de Fulbert Balolagué.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, note que ce programme de santé vise des soins gratuits de qualité avec des objectifs spécifiques.
La mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa. La création d'un mécanisme de protection financière pour les utilisateurs de ces services, ainsi que l'établissement d'un dispositif de régulation et de gouvernance pour assurer la continuité des soins, les références et contre-références, la transparence et la redevabilité.
Docteur Bouraïma Sambo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, appelle les partenaires à soutenir ce programme mais lance ce message aux prestataires de santé.
Il est important de maintenir un sens élevé du professionnalisme pour que la gratuité des soins ne soit pas compromise par une baisse de la qualité.
Pour le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, ce programme qui débute après son lancement officiel a aussi cet avantage.
Mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer.
Pour connaître les hôpitaux retenus à Kinshasa, il est possible en tapant au téléphone *151# et suivre les indications données.
Merci Fulbert Balolagué pour ces précisions. Pendant ces temps dans la Tchopo, 13 à 15% des décès maternels sont enregistrés ces jours-ci suite aux avortements non sécurisés qui auraient dû être évités. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport dressé hier à Kisangani par le Programme national de la santé de la reproduction à l'occasion de la matinée académique de vulgarisation du protocole de Maputo. Cette sensibilisation a été organisée par le réseau des magistrats en faveur des acteurs étatiques et ceux de la société civile. Reportage à Kisangani de Jacques Mkonkole.
Les femmes affectées par ces décès sont âgées de 15 à 49 ans. Au moins 47% d'entre elles meurent d'hémorragie. Difficile de les transfuser faute de sang et de médicaments pour arrêter la perte de sang. Docteur Marie-Thérèse Mokaria, coordonnatrice provinciale du Programme national de la santé de reproduction, explique les causes de ces avortements clandestins.
Il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans la province de la Tchopo. Et puis, la situation socio-économique est précaire. Ces filles-là qui connaissent des grossesses non désirées ou ces femmes-là préfèrent aller avorter dans des conditions qui ne sont pas contrôlées.
La RDC a légalisé partiellement les avortements. Cependant, ceux-ci ne peuvent s'effectuer que dans les conditions prévues par le protocole de Maputo, précise le coordonnateur adjoint du réseau des magistrats de la Tchopo, le procureur Pascal Elouindoula.
Quand la grossesse est issue d'un viol ou bien de l'inceste, ou si la vie de la femme est menacé ou du fœtus n'est autorisé à pouvoir recourir à l'avortement. Évidemment, pas n'importe comment ou n'importe où, mais dans de structures appropriées.
Les participants à cette matinée recommandent notamment aux autorités de s'impliquer afin de vulgariser ce protocole encore ignoré du grand public. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis au sud Kivu, après Kamanyola et Katogota, des nouveaux cas de choléra sont signalés dans la cité de Sangé et à Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi. Le médecin directeur de l'hôpital de Sangé, Dr René Kinyungu, affirme qu'un malade de choléra est décédé hier. Il avait été conduit en retard dans un état critique. C'est ce que nous explique à Uvira, Fiston Gumama Yabala.
Selon le médecin directeur de l'hôpital de Sangé, René Kinyungu, la majorité des malades de choléra à Sangé sont des demandeurs d'asile burundais. Ils proviennent des camps de rassemblement du quartier Kinanira où ils vivent dans des conditions précaires. Aucune mesure hygiénique n'est respectée dans ces sites. Il affirme qu'en l'espace de 5 jours, 60 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés à l'hôpital en provenance de Kinanira. Pendant ces temps, dans le haut plateau de Fizi à Minembwe précisément, plus de 52 cas de malades de diarrhée ont été enregistrés au mois d'août dernier à l'hôpital de Minembwe. L'équipe de direction de cet hôpital a lancé l'appel à une assistance urgente de la MONUSCO pour venir à bout de ces cas de diarrhée assimilés au choléra. Cette épidémie est consécutive au manque d'hygiène justifié par le manque d'eau potable et touche majoritairement les enfants mineurs en cette période de saison sèche dans la région. À Kamanyola, dans le territoire de Walungu, une femme est décédée à la suite de cette épidémie. Non loin de là, à Katogota, une pénurie d'eau potable y est rapportée, contraignant la population à puiser l'eau des rivières pour les besoins domestiques et de consommation. Des sources hospitalières de Luvungi rapportent une flambée de maladies liées à la diarrhée en provenance de Katogota. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Dans les Kwilu, beaucoup de gens ont travaillé pendant 20 à 30 ans sans être payés. Révélation faite ce mercredi matin par la secrétaire exécutive du syndicat des infirmiers de cette province, une semaine après le début de la grève des infirmiers, des techniciens de laboratoire et du personnel administratif. Madame Huguette Pumbu met le gouvernement central devant ses responsabilités. Elle s'est confiée à Irène Mboma.
Nous sommes en grève parce que nos droits ne sont pas reconnus au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont fait 20-30 ans de service, qui ne touchent pas leur salaire, ni la prime de risque. Tandis que le travail que nous faisons, c'est un travail de risque. Mais hier, on a perdu une femme. Vous voyez qu'il y a une femme qui vient donner la vie. Elle a perdu sa vie hier parce qu'il n'y avait pas la bord venée. Elle était à la salle d'op. Le médecin était là, en train de chercher la bord venée. On n'a pas eu comment les transfuser. Et la femme a perdu sa vie. Elle a fait des enfants. Par exemple, à Boulungu, il y a un enfant qui veut perdre sa main parce qu'il a une plaie dans la main. Mais il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de soins infirmiers. Alors, chacun a sa tâche. Maintenant, là que les médecins eux-mêmes qui sont en train d'assumer cette tâche, ça ne leur convient pas. Je demande seulement à l'État de nous reconnaître, de négocier avec les syndicalistes pour que les gens puissent rentrer au service. Parce que je ne veux pas que cette fois-ci, la grève puisse aller jusqu'à 6 mois comme c'était la fois passée. Nous sommes rentrés au service. Mais cette fois-ci, s'il n'y a pas notre quotité, vraiment, nous n'allons pas rentrer au service.
Conséquence de cette grogne des infirmiers, les centres de santé Bondeko 1, Basoko 1 et 2 ont fermé leurs portes. À l'hôpital général de Bandundu, seuls les médecins tiennent un service minimum. L'actualité en plus bref, c'est aussi la fin de la mission gouvernementale qui a séjourné à Goma au Nord Kivu au lendemain du carnage survenu le 30 août dernier. La délégation gouvernementale a regagné Kinshasa hier soir. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, est rappelé dans la capitale pour consultation. Selon des sources sécuritaires, le commandant des opérations et celui des renseignements sont encore à Goma où ils attendent leur notification de la hiérarchie. Notez par ailleurs que le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations qui poursuit sa mission à Goma a échangé ce matin avec tous les commandants des unités engagées dans les opérations militaires. La MONUSCO juge opportune la lettre du gouvernement congolais adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York sur son retrait accéléré à partir de décembre prochain. C'est la réaction de la mission onusienne faite ce mercredi à Kinshasa au cours de la conférence de presse tenue par le directeur des affaires politiques de la mission onusienne en RDC. On écoute François Grignot dans cet extrait proposé par Martin Sebou-Djangwe.
Cette communication à la présidence du Conseil de sécurité sécurité est tout à fait opportune et dans la lignée des échanges et de la publication du rapport du secrétaire général, notamment le 2 août. Et en fait, elle prépare l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu comme tous les ans fin septembre et la prochaine consultation du Conseil de sécurité qui aura lieu le 28. C'est une communication tout à fait bienvenue et qui va permettre aux discussions nécessaires pour la préparation et la planification de la mise en œuvre du plan conjoint et révisé de transition d'être acté.
Revenons un instant au Nord Kivu où la société civile et les notables du territoire de Masisi alertent actuellement sur les affrontements entre deux groupes armés, la PCLS de Janvier Kalaeri et le Nyatura de FDDH Delta dans les groupements de Nyamaboko 1 et Boabo, secteur d'Osobanyungu. Ces affrontements entre ces groupes armés ont jeté sous la route beaucoup d'habitants de la zone. L'élu du territoire de Masisi, Alexis Bahunga, exprime son ras-le-bol sur ce regain de violence dans la zone. À Goma, Bernardine Diambou.
C'est depuis plus d'une semaine déjà que ces deux groupes armés se disputent le contrôle de certaines entités et l'occupation des terres comprises dans ces agglomérations. Selon nos sources, c'est notamment dans les villages Mashaki, Kazinga, Mulema, Ndete, Luke, Ngululu et Shango dans les groupements Nyamaboko 1er et Boabo. Des alertes de la société civile et de la notabilité de Masisi font état des déplacements massifs des populations vers des agglomérations sécurisées telles que les villages de Kihuma, Mahanga, Bihumba et Bitoy. Walter Batundi Sadiki.
La population est abandonnée à la tristesse parce qu'il n'y a que des groupes armés qui contrôlent la zone et se disputent les terrains. Les autorités doivent s'impliquer pour résoudre ces cas, permettre à ce que la population puisse évacuer à leurs occupations.
Par ailleurs, l'honorable Alexis Bahunga demande au gouverneur militaire du Nord Kivu, dans un communiqué rendu public ce 5 septembre, de déployer non seulement une unité spéciale des FARDC dans la zone, mais aussi d'instruire l'administrateur du territoire de Masisi d'organiser un nouveau forum qui devrait réunir toutes les parties en conflit aux côtés de la notabilité de Masisi et aux protagonistes de cesser immédiatement les hostilités. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
À Uvira, pendant ces temps, les acteurs de la société civile se disent inquiets suite au nouveau déploiement de l'armée burundaise dans la plaine de la Ruzizi. Après la signature des accords bilatéraux entre le Burundi et la RDC, les forces burundaises sont signalées depuis dimanche dernier dans les villages de Munyema, Kiliba, Runingu et Sangé. Des sources sécuritaires affirment que ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la task force entre les armées des deux pays pour traquer les rebelles burundais. À Uvira, la correspondance de Fiston Gomayabala.
Les troupes burundaises FDNB ont été observées par les habitants le long de la route nationale numéro 5 dans le village de Munyema, à 10 km au nord de la ville d'Uvira. Ces forces armées venaient de la région de la cité de Kiliba, où elles s'étaient regroupées depuis le dimanche dernier. Le même dimanche, d'autres troupes de l'armée burundaise ont été observées provenir des hauts plateaux. Des sources locales les ont vues se positionner à Runingu Karava et à Kaungwe, à l'ouest de la cité de Sangé. Des sources de FRDC dans la plaine de la Ruzizi confirment cette présence des troupes burundaises qui collaborent avec les FRDC pour traquer les rebelles burundais des Rois de Tabara dans la région frontalière entre les deux pays voisins. Ce déploiement fait suite aux allégations selon lesquelles les rebelles burundais des Rois de Tabara lanceraient des opérations contre les Burundis voisins. La semaine dernière, ces rebelles avaient été signalés dans les buissons de Rukoko à cheval entre Kiliba et le Burundi. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Sud-Sud se réservent de confirmer le positionnement de ces troupes. Toutefois, le lieutenant Marc Elongo confirme que les troupes burundaises opèrent conjointement avec les FRDC dans l'esprit des protocoles sous-régionales. D'Uvira, Fiston Gomayabala, Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus, bref, les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont renouvelé pour 3 prochains mois le mandat de la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Décision prise lors du récent sommet de l'EAC tenu à Nairobi au Kenya. Cette nouvelle prolongation du mandat de l'EAC fait suite au progrès opérationnel réalisé par la force, a indiqué un communiqué final du 10 sommet.
Actualité internationale.
Le premier sommet africain sur les climats s'est achevé ce mercredi matin avec l'adoption d'une déclaration dite de Nairobi destinée à concrétiser le potentiel du continent dans une croissance verte. Annonce faite par le président kényan William Ruto qui a accueilli cette rencontre. Les signataires de ces textes affirment que cette déclaration de Nairobi servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur les changements climatiques jusqu'à la COP 28 et au-delà. Et puis, alors que la contre-offensive ukrainienne entre dans son quatrième mois consécutif sans percée majeure à ce jour, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé ce mercredi matin à Kiev pour une visite surprise, la quatrième visite du genre depuis le début de l'offensive de l'invasion russe. Une façon de réaffirmer le soutien de Washington alors que le doute s'installe davantage dans une partie de l'opinion américaine.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin directeur du centre de santé de Lokando, une cité située à 60 km de Kindu-Maniema. Docteur Gervais Djellaluka affirme que ce centre de santé manque de médicaments essentiels. Conséquence, les malades meurent en route faute d'ambulance. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Gervais Djela, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous comment fonctionnent les centres de santé de référence de Lokando.
Oui, normalement les centres fonctionnent très bien dans l'ensemble, mais la seule situation c'est que le centre manque l'approvisionnement en médicaments. Il y a de cela, si je ne m'abuse pas, il y a de cela plus de 6 mois qu'on n'a pas de médicaments à Lokando. On a été appuyé l'autre fois par le Fonds mondial qui a donné son dernier acompte, donc le dernier trimestre de l'an 2022, qu'il a envoyé le médicament, mais jusqu'à présent on a un problème vraiment de médicaments ici à Lokando.
À part les partenaires, le gouvernement n'appuie pas ces centres de santé?
Je peux dire non. Le gouvernement n'appuie pas le centre. Il y a l'ONG Owaki qui chaque fois arrive, même il a un programme précis sur le paludisme. C'est là où Owaki est en train d'appuyer. Oui. Et pour le reste, le gouvernement vraiment n'appuie pas.
Votre centre de santé a quelle capacité d'accueil?
La capacité d'accueil, normalement l'hôpital a la capacité d'accueil de 32 lits. 32 lits dont je peux dire, s'il faut un peu dispatcher, en pédiatrie, en médecine interne et en chirurgie. Et on prend même les lits pour les accoucher. C'est un peu le total de 32 lits.
Et la fréquentation des malades par jour, vous avez combien de malades?
Normalement, avec les projets d'IFF, on arrive à voir même au-delà de 15 malades par jour.
Plus de 15 malades par jour, l'hôpital n'a pas les médicaments. En cas d'urgence, qu'est-ce que l'hôpital fait?
Normalement, l'hôpital ne fait que référer. Il peut référer, mais il y a un problème sur la référence. Il n'y a pas de route. Il y a un problème même par la voie fluviale, surtout qu'on est proche du fleuve. Il y a toujours un problème en cas d'urgence ici à Lokando.
C'est-à-dire, quelqu'un peut mourir avant son temps parce qu'on n'a pas seulement de médicaments. Il y a pas de moyens de transport. Vous avez les véhicules ici pour transférer, référer les malades?
Non, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas même un moyen de transport, encore moins même un vélo, il n'y en a pas. Et ce que vous dites là est juste. Le malade peut même décéder avant même son jour à cause seulement de la pénurie en médicaments qui surgit ici à Lokando.
Mais quand vous référez les malades, vous les référez à Kindu?
La référence, c'est vers l'hôpital général de Kailo.
C'est à combien de kilomètres d'ici?
Normalement, s'il faut prendre 60 plus 72, c'est aux environs de 132 kilomètres.
Mais ça c'est grave. Et côté personnel, vous êtes bien? Vous avez combien de personnel ici?
Normalement, côté personnel, on est bien et on est aux alentours de 23. 23 personnels, oui. Et sur ces 23, il y a des paras et des non et des médicales.
Mais l'hôpital n'a pas un financement des partenaires, les gouvernements non plus. Quelle initiative que l'hôpital a pour arriver à bien prendre en charge les malades?
Bon, normalement, il n'y a pas quelque chose de grave, à part peut-être une auto-prise en charge par le malade lui-même, la prescription, et le malade passe payer le médicament. C'est vraiment ce qui est comme problème ici à Lokando.
Et ici, à l'Okand, on a des pharmacies vraiment qui peuvent répondre aux besoins, aux ordonnances que vous prescrivez aux malades?
Non, il n'y a pas une pharmacie qui peut répondre vraiment aux normes d'une pharmacie qui, pour un centre de santé de référence. Vraiment, il n'y en a pas. Il y en a pas.
Mais dans ces cas-là, les gens ils vont courir à Kindu pour rentrer?
Oui, et surtout qu'il y a des montards qui font leur job. Ils appellent ça le va-et-vient. Oui, on pouvait prescrire le matin et le soir, ils vous amènent le produit.
Et dans un milieu comme Lokando, c'est demander trop à la communauté?
Oui, c'est un peu ça.
Bon, là, je comprends que les centres de santé de référence de Lokando ont un sérieux problème. Est-ce que vous donnez un travail de qualité à la population ou bien vous ne faites que couvrir?
Bon, on est en train d'agir par rapport à nos moyens. On agit par rapport à nos moyens et les soins que nous sommes en train de donner, ce sont les soins de qualité. Mais le problème surtout, c'est sur le médicament et les moyens de transport. C'est ce qui nous cause un peu de difficultés.
Côté matériel, il n'y a pas de souci?
Non, côté matériel, il n'y a pas de souci, puisque on a la Fondation Maman Olive avait doté côté matériel. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus.
Docteur Gervais Djela, Luca, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le médecin directeur du centre de santé de Lokando au Maniema, docteur Gervais Djela Luca, avait été interrogé par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.